La mort d'une dame, la mort d'une autre dame. Ce jeune homme qui me dit « Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que vous pouvez m'exorciser pour que je ne meure pas ?» et qui me demande si je suis le bon Dieu. Cette autre famille qui me dit « On se verra demain, n'est-ce pas ? On se verra demain, ce sera sympa. » Bon, c'est le quotidien du bénévole écoutant. Voilà.
Le chemin que je préfère pour rejoindre l'hôpital suit le bord de la rivière. Il y a bien sûr des rues pour y aller, mais ce chemin sinueux au long de l'eau, dans sa solitude, me plaît davantage. Souvent, sur cette piste de terre, je laisse vagabonder mon esprit. J'imagine l'évolution de ce que je m'apprête à revoir. C'est de cette façon que je me prépare, que j'apprivoise par avance la difficulté. Me projetant dans mes rencontres, les anticipant, il m'est ainsi plus aisé de démarrer mon après-midi.
À l'écoute, un regard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et d'Yfi Mariani.
On va avancer, c'est un long couloir bordé de chambres. Il y a là, salut. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Vous pouvez vous rendre compte que il y a 10 chambres, que le service est très silencieux, très calme. Vous voyez à droite et à gauche les photos qui sont au mur, les dessins qui sont au mur. Cette année, je vais essayer de continuer à noter. Bonjour. Mais pas tout, ni tous. Je n'ai pas de bouclier thérapeutique. Je ne suis ni aumônier, ni soignant, ni parent ou ami. Je ne suis pas là pour proposer, mais pour accompagner. Je ressens souvent combien ce statut de bénévole, dans ces conditions, est difficile. Ni proposition de soins, ni consolation religieuse, ni protection familiale, rien. Que moi, que nous, si le malade veut me recevoir. Là, je passe devant une chambre et je vois que la porte est grande ouverte, le lit est vide. Il était occupé jusqu'à ce matin. Et puis la dame qui y était est décédée. Et j'ai un bon souvenir de cette dame, de son mari, de sa fille. Quand je regarde le lit, je vois la personne encore. Voilà. Ça va ? Une dame donc,
qui vient de décéder.
D'accord.
Madame.
Sa famille est auprès d'elle ?
Oui. Oui. C'est bien. Mais un grand désarroi.
On y va ? Ben oui, je la décompte. Il y a tout surchargé.
Je m'enquiers à propos de cette dame décédée ce matin. Voir si elle est partie dans la paix ce matin, ou si c'était dans la révolte ou dans le questionnement. Voilà. Et puis, il y a des familles qui sont là face à une personne qui est dans l'apparente inconscience et à laquelle elles ont envie de dire des choses encore et qui ne savent pas si elles seront entendues. Vous savez que nous, les bénévoles, on dit « mais parlez, quelque chose entendra chez elle, et vous, en tout cas, vous l'aurez dit, faites le pari de la présence. » On va aller dans le salon des familles un peu. Bonjour. On vient de faire du café, si ça vous intéresse, il est tout chaud. Voilà. Alors, il y a eu une jeune fille qui est venue l'aider à se raser, et il était tout fier après Joliot. Il m'a dit, regarde, touche. Et ben, il était très content parce qu'il avait la peau toute bien rasée, tout jolie.
Il est bien rasé.
Donc il m'a dit, regarde un petit peu, touche, j'ai la belle peau. Voilà.
Ça me fait bien.
Oui, oui, voilà. Tout à fait.
Bon, il est fatigué, je le laisse un peu reposer, c'est pour ça que je suis venu là.
Oui,
je le laisse un peu reposer, mais aujourd'hui, il ne dit que pas manger. Manger de la glace, c'est déjà bien, c'est rafraîchi. Voilà. C'est dur, hein?
Oui, c'est dur.
C'est la vie comme ça. Ça, c'est vrai, mais vous êtes trop gentil, vous entrez de parler, passer un peu le temps, le malade, oui. Mon Dieu vous aide aussi, à nous aussi, qui me donne du courage. Oui. C'est dur, hein? C'est comme ça la vie. Pas trop facile. Moi, je ne comprends pas trop bien, puisque la bouche, elle est sec, il ne parle pas.
Mais il arrive à se faire comprendre. Moi, j'ai bien compris tout ce qu'il m'a dit, là, ici. Oui, oui, tout à fait. Si on s'approche près, il parle à voix très basse, mais il parle distinctement. Et si on lui fait répéter, on entend tout à fait ce qu'il dit. Il y a même des mots compliqués, on entend tout à fait ce qu'il dit. Oui, oui, madame.
Oui, oui.
Donc, continue à prendre soin de lui, et puis moi, je passe auprès de vous tout à l'heure.
D'accord.
Allez.
Bon.
À tout à l'heure.
Oui, à tout à l'heure. Oui, merci.
Je me suis souvenu du début de ma formation de bénévole. Deux femmes que j'accompagnais pour apprendre comment faire. L'une de ces femmes m'a appris à ne pas avoir peur, ou plutôt à avoir moins peur, à m'approcher, à parler. J'entends encore, comme si c'était hier, sa voix s'adressant aux vieilles dames que nous visitions ensemble. Une voix douce et un peu traînante, des syllabes très articulées pour que la personne, même sourde, puisse comprendre.
J'hésite à rentrer dans la chambre de cette dame. Je vais voir si elle ne dort pas.
C'est elle qui m'a appris à me placer bien en face de celui que je visite, à accompagner d'un mouvement des lèvres un peu exagéré, les mots prononcés, à le regarder dans les yeux. L'autre m'a appris à me taire.
Ça ne marche pas. Il n'est pas comme il faut. Il est dur à mettre, ce machin. Ça y est. Mais il ne faut pas qu'il y ait des coups.
C'est la première fois de ma vie que je vois une photo de dameuse dans la chambre d'une dame. Avec, dans le godet, un jeune homme.
Voilà, oui.
Oui.
Pour la bonne raison que j'habite à côté de chez ses parents. Et ce jeune homme, il était malade dans le service, là. Il est décédé, d'ailleurs.
Oui.
Et c'était sa machine, quoi. Il travaillait sur cette machine.
D'accord.
Il était dameur l'hiver. Puis la photo est magnifique.
Oui, oui, oui.
Une photo très belle. Il y a de la belle neige fraîche.
Et puis le jeune homme qui bouge comme ça, qui est dans son godet, qui est tout en pleine vitalité.
Oui. 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 J'ai passé ma vie là-haut, alors...
Donc vous skiez, donc...
Oui.
Oui.
C'est fini tout ça. Tant pis, hein. C'est fini. Tout a une fin.
Mais l'hiver va revenir avec la neige que vous aimez.
Voilà,
donc
oui.
Là, quand vous y serez à nouveau, vous serez...
Je ne sais pas si je serai encore là-haut chez moi, hein. On verra bien. On verra.
Oui.
En fait, j'ai oublié de vous proposer quelque chose.
Et j'ai mon petit gâteau de riz, il est dans mon frigo, alors vous allez me le donner.
Vous ne voudriez pas un jus de fruits avec ou bien...
Pas de jus de fruits, mais j'ai les boyaux un petit peu.
D'accord.
Enfin, les boyaux.
Oui. Annie.
Bon, donc, je vais vous donner votre petit gâteau de riz.
Une merveille de femme.
Vous avez une petite cuillère.
Du courage, de l'humour. Elle arrive au bout.
Non.
C'est la première fois aujourd'hui que je la vois pleurer.
Est-ce que vous voudriez autre chose ?
Que faire, sinon tenir sa main et caresser son front ?
Ah, mais ça, c'est joli,
et
ça,
lui dire combien sa présence m'est précieuse. Elle articule silencieusement des mots et je lis ses mouvements de lèvres. Elle est heureuse que je pense à elle, même lorsque je suis chez moi. Je lui rappelle ce qu'elle m'a dit. Autour d'elle, tout le monde la trouve apaisante et d'un bon secours dans les soucis de la vie. J'aimerais qu'elle se rassérène de cette vision d'elle-même. Je lui dis que je reviendrai la voir en cours de semaine et que le muguet primeur sera sans doute mûr lundi prochain. Je lui en ramènerai de la campagne.
Claire, vous écoutez les bénévoles écoutants de l'unité de soins palliatifs du CHU de Grenoble. Quelles doivent être les qualités d'un écoutant ?
Je crois que la première chose, c'est bien sûr l'humilité. Et justement, cette conscience qu'il a autant à recevoir qu'à offrir. Donc, il vient aussi là pour l'offrande que l'autre, dans sa situation de malade, va faire pour sa propre vie. Ça, il faut qu'on ait vraiment une grande, grande conscience de ça. Que je ne suis pas effectivement dans une démarche désintéressée. C'est un privilège de pouvoir approcher ce que j'appelle quelquefois les dernières moissons d'un être humain. Et ce privilège-là, j'allais dire, il faut le mériter par toute une série d'attitudes. Entre autres, la capacité à se taire. Et ça, c'est une grande exigence de l'accompagnement que de savoir se taire. La formation continue des bénévoles, c'est le malade qui l'a fait, et sa famille, qui à chaque instant nous renvoie. Il y a toujours ce va-et-vient entre ce que vit l'autre, et qu'est-ce que ça réveille chez moi, et qu'est-ce que ça me dit, et quelles sont les questions que ça me pose, etc. Et il faut être conscient de ce va-et-vient permanent. Et effectivement, je crois que une fois la formation de base, même les formations qu'on peut donner à Jeanne Maff terminées, après, c'est la rencontre alors, qui est notre formateur.
On y va ? Allez. Donc voilà, c'est le premier groupe de parole qui nous réunit après la coupure de l'été. Donc je vous laisse aborder les choses que vous souhaitez aborder et dans l'ordre qui vous convient.
Oui, moi j'avais envie d'apporter là deux situations que j'ai rencontré, j'ai repris depuis trois semaines à moi. Et je dirais que j'ai eu une visite avec un monsieur. Heureusement, sur l'affiche, on m'avait mis qu'il n'avait plus de jambes. Il était amputé des deux jambes. Et j'ai trouvé que c'était bien de l'avoir noté, parce que c'est vrai que je n'avais jamais rencontré quelqu'un sur son lit sans jambes. Un homme, en plus. Il n'était pas trop habillé en bas. Et bon, tout de suite, je me suis dit, regarde le visage, ne t'attarde pas. Mais bon, il y avait une appréhension de ma part. Et cet homme, comment dire, sa femme était là la première fois. Après, je l'ai vu seul. Et cet homme, sur son lit, sans jambes, il avait une jambe artificielle posée sur un fauteuil. Enfin, je dis ça parce que c'est des visions qui m'ont quand même impressionnée. J'en ai fait abstraction après, mais ça m'a impressionnée. Et comment dire, tout de suite, quelque chose s'est passé entre son sourire et notre rencontre. En plus, il ne parlait pas parce qu'il était opéré, il était trachéo, quoi. Donc, pas de parole, sans jambes, sur son lit. Je me suis dit, mais où je suis là ? Et finalement, Ben, j'ai rencontré un homme, mais un vrai, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment dire ça, complet. Et ça, ça m'a... Pour moi, c'est quand même extraordinaire. Là, ça m'a fait faire un pas en me disant, mais qu'importe finalement, le bras, la jambe, les yeux. Il avait un tel sourire, la façon dont il me disait qu'il aimait la vie, qu'il écoutait la radio, qu'il se nourrissait de tout cela, qu'il avait envie qu'on l'opère à nouveau pour qu'il puisse parler. Et la dernière fois que je l'ai vu, parce qu'il est parti à l'hôpital pour se faire opérer, la fois d'avant, donc, il m'a prise dans ses bras. Je me suis dit, oulala. Et il y avait une telle chaleur, je me suis laissée faire, finalement. Je me suis dit, cet homme, ben, je lui donne le droit de m'embrasser, de me prendre dans ses bras, d'avoir cette relation avec lui. Et j'étais moins gênée parce que sa dame n'était pas là. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Non, mais on ne peut pas se permettre devant sa compagne des gestes aussi simples, aussi beaux, quoi, parce que je ne voudrais pas froisser, je ne voudrais pas qu'elle s'imagine d'autres choses, quoi. Mais voilà, je suis émue quand je parle de cet homme, parce que je trouve que ça nous donne une leçon de vie incroyable, incroyable. Avec ce peu de moyens qui lui reste d'être pleinement dans la vie. Et je voulais le mettre en parallèle avec une difficulté justement d'un autre monsieur qui est dans le même service, mais alors complètement fermé, un ancien SDF. Je suis obligée de faire du forcing avec lui. Il dit « j'ai rien à dire ». Mais en même temps, il m'accepte, il ne me dit pas de partir. Alors je reste. Mais c'est très difficile, parce qu'autant avec l'ardoise, j'avais une conversation, une discussion, autant que ce monsieur fermé, buté, pas de nouvelles de sa famille dans le Nord, un monsieur seul, entièrement seul, qui ne se lie à personne, même pas au compagnon de chambre qu'il a. Et là, je suis en difficulté pour l'atteindre. Et ça fait aussi 3 fois que je vais le voir. Je continue. Et à chaque fois, il me dit « Non, j'attends quelqu'un ». Alors qu'il m'a dit qu'il n'avait personne. Ou il me dit « Je suis occupée ». Je dis « Qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Non, je ne vous dérange pas. Je vais m'en aller, juste un petit bonjour en passant ». Puis finalement, il ne me met pas dehors. Et sa maladie lui déforme le visage aussi. Et ça, c'est difficile, je trouve, de voir. Là, moi, je suis en difficulté devant des personnes comme cela. Comment arriver à lui dire que malgré tout, je suis là, je passe. Il me dit sa douleur, sa souffrance d'être seul. Ça se voit, quoi. Il n'a même pas besoin de le dire, ça se voit sur son visage, quoi.
Alors, je crois que... Est-ce qu'il faut continuer à y aller ? Oui. Sauf si sa déformation te mettait dans un malaise qui brouillerait ton intuition et qui fait que, tu vois, qui ferait des parasites entre lui et toi. Non. Si tu peux, comme tu dis, regarder ailleurs et fixer un endroit qui est beau, oublier ça et du coup être complètement, que ce soit fluide entre vous, il faut y aller.
Mais ça, par rapport à tous ces hommes, c'est surtout des hommes hein, qui sont trachéaux, là, qui sont opérés, qui ne parlent plus ou qui ont le visage déformé. Maintenant, je sais, la première visite, j'ai eu un peu l'appréhension, mais maintenant, tout de suite, avant quoi que ce soit, je fixe les yeux et je sais que les yeux, finalement, on oublie le reste. On voit beaucoup moins et je crois que c'est ce qui reste. Comme ceux qui vont très mal, d'ailleurs, je trouve que quand ils sont en fin de vie, je trouve que les yeux sont magnifiques, quoi. Mais on apprend tout doucement, quoi. C'est pas facile, je trouve. Enfin,
l'accompagnant doit avoir ce regard que j'appelle un regard visionnaire, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas captiver ou capturer par l'aspect physique, par les métamorphoses. C'est un regard qui voit l'autre entier, même s'il a été amputé. C'est un regard qui le voit vivant, même s'il est à bout de souffle. C'est un regard qui permet, de lui confirmer la permanence de son être au-delà de tout ce que la maladie, la vieillesse ont pu faire de lui. C'est un regard qui confirme le jeu de cette personne, le jeu J.E., unique et entier. Bon. Une autre compétence qui est bien nécessaire, à mon avis, c'est d'avoir un petit peu regardé droit dans les yeux la souffrance et le mal du monde, et pour ne pas être dans une révolte qui ne serait d'aucune utilité pour le malade. Donc il y a quelque chose en nous qui doit être consenti sur la condition humaine. Forcément, il y a des moments où ça cogne et où ça fait très mal, et c'est pour tout le monde pareil. Et encore une fois, toute manifestation de refus du réel ne pourrait qu'entraîner davantage de souffrance et du désordre émotionnel, et les situations n'ont pas besoin d'être aggravées par nos propres réactions à nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre du oui qui doit se dire dans les situations quelles qu'elles soient. Oui, c'est possible qu'à un moment, un être humain, ça ressemble à ça, qu'on ne sait même plus si c'est un homme ou une femme, et qu'on passe devant la porte, on nous a dit d'aller voir madame un tel, mais non, mais ça, c'est un homme, et bien non, c'était elle, effectivement. Donc, c'est tout sauf être blindé, c'est tout sauf être carapassonné, c'est au contraire avoir en quelque sorte vraiment discuté le bout de gras avec la situation de la condition humaine, sans échappatoire. Par ailleurs, si on reste longtemps dans l'accompagnement, c'est bien parce qu'on y a un certain nombre de bénéfices très intéressants, parce que la vie se sert toujours de ces rencontres pour nous permettre d'aller éventuellement revisiter des endroits de nous qui ont été blessés, et que la rencontre met un peu à nu. Dans les endroits qui sont blessés, il y a toujours beaucoup d'énergie qui est captive. Donc c'est intéressant de prendre ce cadeau de la rencontre pour aussi avancer dans son propre chemin.
Pourquoi faire ça ? Parce que je ne saurais pas faire autre chose. C'est l'appétit. L'appétit de l'autre, c'est un vrai appétit. Il faut sacrément penser qu'on a du sens quand on est devant une porte, qu'on flippe comme une bête à l'idée d'entrer parce qu'on ne sait pas derrière la porte qui y aura, et que vous vous présentez avec rien, ni avec un soin, ni avec Dieu, ni avec la psycho, ni avec l'histoire familiale, rien du tout. Et puis dire, je m'autorise en tant qu'être humain, imaginez cette puissance de l'être humain, eh ben, je m'autorise à ce moment-là à me proposer.
Anonyme. Un homme terriblement maigre, mourant, épaules blanches et dénudées. La chemise d'hôpital se soulève à peine. Il est pleinement conscient. Échange de banalité. 10 minutes de vide. Je ne parviens pas à établir le contact. Il me semble plein d'ironie à mon égard, de mépris latent.
J'ai tout le temps sans doute un radar qui tourne comme tous les bénévoles au-dessus de la tête. Et ce radar identifie la colère, le chagrin, la gêne, l'ennui, la peur. Vous voyez, bon, ça tourne. Tout de suite, dire... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que, au moment où ça se passe mal ? Je me souviens être rentré dans une chambre et avoir vu un jeune homme dans le lit, couvert de sang par une hémorragie terrible qui ressemble à mon fils comme deux gouttes d'eau. J'ai pas pu rentrer. Je me suis retiré. Est dedans. Elle va sortir.
Bonjour.
Comment?
D'accord. coucher là. C'est qui vous gêne.
Quelque chose qui vous gêne, c'est le fil qui vous gêne.
Pas bouger, pas bouger.
D'accord.
Et ensuite, c'est comme ça. Arrêtez de m'enfumer. Arrêtez de bouger. Arrêtez d'écouter.
Arrêtez de quoi, dites-moi ?
D'écouter.
D'accord, vous voulez plus qu'on écoute. Donc, stop. Il m'a dit de vous dire que les bénévoles étaient bien. Donc je vous redis ce qu'il me dit. Il m'a demandé s'il allait mourir. Il m'a demandé si j'étais le bon Dieu. Et puis après, il m'a demandé si j'étais un exorciste capable de lui enlever la mort. Je dis que non, bien sûr. Il m'a demandé de le jurer sur la tête de ma mère. Ma mère est morte, mais de toute façon, je ne suis pas exorciste, donc j'ai juré. Et je lui ai dit que je reviendrai le voir, mais il m'a rappelé plusieurs fois de suite. Voilà.
Il souffre beaucoup. Il souffre, mais nous n'avons rien à faire. Si nous pouvons faire quelque chose, on le fait, mais nous n'avons rien à faire.
Chaque fois qu'il a mal, il ne faut pas hésiter à aller le dire. Il faut dire, parce que lui, peut-être, il n'ose pas trop dire, peut-être. Comme ça, dès que vous voyez qu'il a le visage qui se crispe,
oui.
Ou bien, vous n'hésitez pas à dire aux infirmières, je crois qu'il a mal.
Eh oui. C'est dur, mais bon. Voilà.
Je reviendrai bientôt, alors. Hein.
Ok. Ah, c'est gentil. Merci okay. Beaucoup.
Je vous en prie. Bon courage.
Eh oui. Bon, passez une bonne journée.
Merci, madame.
Vous tous, vous sont tous gentils avec le malade. C'est normal. Hein. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt.
Pierre, est-ce que vous faites état des discussions que vous avez avec les patients ou familles où il y a une espèce de secret ?
Il y a un secret. Il y a un secret, bien sûr. Il y a un secret, bien sûr. Il n'est pas question. Dans la visite, la personne prioritaire, c'est le malade. Vous aurez remarqué qu'à aucun moment on nous dit ne le répétez pas, parce que ça va de soi.
Même si ça peut aider les familles, si ça peut les soulager.
S'il y a un non-dit, c'est qu'il y a une utilité à ce non-dit. Il y a une histoire qui s'est bâtie. Donc, bien sûr, parfois les mots nous brûlent de dire des choses, mais ils restent dans notre bouche.
Là, en l'occurrence, vous n'avez pas fait état à la maman de Julio de ce que vous a dit son fils?
Absolument pas.
C'est toujours assez extraordinaire aussi de l'extérieur, hein, de se dire mais comment il fait, enfin, ce qu'on appelle quelquefois ici dans le groupe ces héros des temps modernes qui traversent des mois de lutte contre des cancers invalidants, défigurants, etc. Donc si on a, de par l'engagement, la chance, hein, de pouvoir approcher ces gens-là, ben c'est vraiment un bel enseignement, quoi. Sur cette question, moi, mais comment ils se débrouillent ? Comment ils se débrouillent pour être vivants, malgré tout ça, quoi ? Elisabeth Kübler-Ross disait « Les mourants sont nos maîtres ». Et il y a quelque chose de ça, hein, c'est « Les malades sont nos enseignants ».
Mais pour l'écoutant, pour le bénévole, il a besoin aussi de se protéger. Il a besoin de garde-fous, il a besoin d'un salaire y compris. Quel est ce salaire, Claire ?
Et c'est bien justement le salaire qui est le garde-fou. C'est-à-dire, le salaire, c'est la conscience de ce que je viens chercher là, moi, pour moi. Et non pas, je ne suis pas la dame patronesse, hein, comme dirait Brel, un poil à l'envers, un poil à l'endroit. Enfin. C'est Saint-Vincent de Paul qui disait ça très bien déjà, c'est un fin psychologue. Va voir ton pauvre, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui justement pour tout ce chantier que ça va mettre en route à l'intérieur de toi. Donc si la personne n'est pas au clair avec ce qu'elle sait que va lui apporter la rencontre, il ne faut pas qu'elle aille au chevet des gens. Sinon elle va être dans une position de surplomb, et ce surplomb ne permet pas d'être nourri par ce que l'autre veut bien nous offrir. Et puis le sang, parce que quand on est dépossédé complètement de capacité de faire, les antennes au niveau de l'être sont surdéveloppées. Et quand vous rentrez dans la chambre, le malade, il sent déjà dans quel état on est et dans quelle posture on est.
Je vais aller voir Hamid, s'il est là. Je vais aller voir José peut-être, je vais voir...
José, au moment où nous nous séparons, il hésite, puis me pose la question. Vous croyez que je vais mourir ? Une voix, un homme, un visage effrayé, un corps envahi par le refus, la terreur, exposé à mon regard, une vulnérabilité que plus rien de social ne contraint. Est-ce que je vais mourir ? Attendre que quelque chose bouge, quelque chose à quoi arrimer des mots. Mais en réponse, rien. Rien dans l'eau laquée de ce regard qu'une attente.
Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis bénévole dans le service et je viens de faire du café. Alors, si ça vous intéressait, tout à l'heure, je pourrais vous en amener une tasse.
Il n'y a pas un danger à entendre la souffrance, si ce n'est que ça nous renvoie à un travail incontournable, qui est à la fois la clarification, autant que faire se peut, de ces questions existentielles de base. Et si on est trop investi là-dedans, il y a un moment où il me semble qu'il y a un risque que notre chanson intérieure diminue. Cette espèce de chant de vie qui chante en nous quand on est bien peut un jour devenir plus gris, plus terne et plus triste. Et il faut jamais qu'on oublie que cette partie-là de notre vie est une petite partie de notre vie. Il ne faut pas que ça devienne le tout de notre vie. Parce que dans la vie, il faut toujours équilibrer les polarités et que si on va du côté du grave, il faut mettre du léger de l'autre côté. Mais encore une fois, chacun y va de sa spécificité en lien avec son histoire. Quoi. Il y a des gens qui ont besoin de parler, il y en a d'autres qui ne veulent pas parler, il y en a qui ont une main courante, comme Pierre, qui vont écrire. Et je crois qu'écrire, ça restera quand même toujours un moyen fantastique de sortir les choses de nous et de les regarder avec un peu de recul. Quoi. À ce niveau-là, au niveau de la protection, le cadre et les règles posées fermement par l'association JALMAV sont très, très sécurisantes et permettent vraiment que les gens puissent s'approcher des malades sans leur faire du mal et sans se faire du mal à eux.
Ah bon ?
Quel est ce cadre, Claire ?
Le cadre, c'est déjà qu'on ne vient qu'une demi-journée par semaine. Le cadre, c'est l'obligation d'une réunion avec l'équipe, c'est-à-dire vraiment être dans le « nous », nous les accompagnants, nous l'équipe, et pas moi, je toute seule, je fais mon truc. Et puis l'obligation d'un groupe de parole à peu près toutes les 6 semaines. Et ça, c'est très sain et c'est un très, très bon garde-fou.
Alors, qui veut bien enchaîner?
Et trois fois de suite, j'ai rencontré un monsieur qui m'a énormément touchée. J'ai compris simplement à la troisième rencontre qu'il était en soins palliatifs. Mais c'est de ce monsieur dont j'ai envie de parler. C'est une rencontre très, très joyeuse. Et... comment expliquer ? Ben, je l'ai vu se dégrader quand même petit à petit, la première fois dans son fauteuil, après dans son lit très fatigué, mais toujours d'une ouverture à moi, à ma vie, me posant des questions sur ma vie, sur l'hôtel que j'avais il y a 10 ans, sur comment ça marchait le ski de fond, sur... Après, il m'a parlé de géologie, c'était un homme extrêmement cultivé, enfin bon, qui s'occupait des exploitations de pétrole, donc il avait beaucoup voyagé. Et après, donc, juste avant son décès, la dernière rencontre, c'était la veille, il m'avait parlé de géologie dans l'Himalaya, que les pierres dans l'Himalaya étaient les mêmes que celles du Vercors et de la Chartreuse. Et un sourire chez cet homme qui jamais ne parlait de sa mort, qui savait bien sûr qu'il allait partir, mais vraiment cette dignité quoi, d'un homme qui sait qu'il va mourir. Et à chaque fois, il me disait « à la prochaine fois !» C'était... Et moi, j'allais souvent demander à l'accueil, comme les infirmières étaient un peu débordées, est-ce que monsieur de la chambre 285 est toujours là ? Oui, il est toujours là. Et voilà. Enfin, là, j'avais noté dans mon cahier en revenant que ça valait le coup, rien qu'une rencontre comme ça dans l'année, ça valait le coup de faire le bénévolat. Ah oui. Et cet homme, j'ai eu quelques rencontres comme ça, là, depuis bientôt 4 ans que je fais le bénévolat, mais... Je sais que maintenant, ben hier, je faisais une marche un peu dure, un peu pénible, et quelque part, il m'habitait, quelque part. Et même là, pour l'instant, je peux encore m'adresser presque à son nom, mais je sais qu'après, je l'aurais oublié. Mais voilà, c'est de ces gens qu'on a rencontrés qui, juste au moment de mourir, vous donnent encore tellement. C'est incroyable, quoi. Et... En fait, il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Et là, je voulais absolument savoir comment, qui. Et Sophie, la cadre infirmière, n'était pas là, donc n'a pas pu me répondre. Les infirmières non plus, ne savaient pas, etc. Et j'ai fini par trouver l'interne qui m'a donc dit qu'elle l'avait vu le matin, qu'elle lui avait dit « je vous laisse vous reposer ». Et qu'il avait répondu oui, dans la paix et la sérénité. Et il est mort donc la nuit d'après. Voilà, ben c'est vraiment des rencontres très très belles quoi. Ouais, très très belles. Voilà, c'est tout par rapport à cette rencontre, oui. Le soir, dans mon lit, je me suis dit, je suis amoureuse de cet homme. Et parce qu'à un moment, je lui ai dit, à la dernière rencontre, vous me touchez beaucoup. Et il m'a dit, mais c'est réciproque, madame. C'était l'amour courtois, l'amour. Voilà. Et en trois fois, quoi. Et... Ouais. Et comme ça, je veux bien mourir, quoi. Hein, Encore s'ouvrir comme ça aux autres, me demander si j'avais beaucoup de clients au début de mon hôtel. Il y a 10 ans que j'ai plus l'hôtel, je lui ai dit une fois. Je lui ai dit une fois que j'avais eu un hôtel, c'était ma vie professionnelle, qu'elle était finie. Elle avait de sa mort, elle me dit, mais est-ce que vous avez eu beaucoup de clients? Est-ce que c'est... Enfin, bon, voilà. Me transmettre. Et chaque fois qu'il sentait qu'il me transmettait quelque chose, qu'il me donnait vie à quelque chose ou qu'il transmettait à mon mari, il y avait un sourire chez cet homme qui est mort la nuit d'après et qui ne parlait jamais de sa mort. À la prochaine fois.
Nuit noire, tout ce que je possède,
tient dans mes yeux ouverts. Nuit noire, tout ce que je possède tient dans mes yeux ouverts. Vous voyez, quand la nuit se fait dans la chambre, qu'on a les yeux ouverts et qu'on s'interroge sur ce qui est encore dans notre maîtrise, dans notre pouvoir, c'est un petit peu ça, les personnes en déréliction, en perte de sens. Donc peut-être que s'il y avait une toute petite lumière allumée qui permette à la personne de repérer quelques objets, mais pas forcément celui qui allumait la lumière, ça suffit. C'est ici et maintenant que tout se passe. Si ça ne se passe pas maintenant, dans 5 minutes, ce sera trop tard. Un soupir qui n'est pas entendu dans sa discrétion par le bénévole écoutant, il n'y aura peut-être pas de second soupir. Une main qui tâtonne sur le drap à la recherche de votre main, qui ne la trouve pas et qui se retire, si votre main n'était pas à portée, peut-être que la personne, dans son découragement, ne sera pas amenée à retenter l'expérience. Donc, la présence absolue, immédiate, c'est essentiel. Elle est très vieille. Une très vieille dame aux yeux incroyablement bleus. Des myosotis dans un champ de rides, de ravines, de taches de vieillesse. Elle était bergère dans les montagnes. Elle parle de son métier, de ses alpages, de ses animaux, d'un de ses chiens. Ah, ce chien, le chien. Il était si intelligent que je le vous voyais. Je lui disais, allez chercher les brebis. Il allait les chercher. Il les ramenait toutes. C'est bien lui dont j'aurais besoin aujourd'hui, tiens. Elle rit tout le temps en attendant cette mort qui ne vient pas, qui tarde tant. Est-ce que vous croyez que le paradis c'est mieux qu'ici ? Me demande-t-elle. Et elle rit. Elle fait des phrases en morceaux, des mosaïques en vrac dont je dois me débrouiller. Recroquevillée, minuscule dans son lit, elle pétille de vie, se réjouit de la vue par la fenêtre, se pelotonne sous les draps comme un chat maigre dans la paille. Elle me chatouillerait pour me faire rire, que je n'en serais pas surpris.
On a besoin, avant de partir, de déposer son histoire dans une oreille accueillante, parce qu'on sait comme ça aussi que la personne va vivre avec ça, et que nous, on ne va pas complètement disparaître, on va juste mourir, mais on va continuer à vivre à travers tous ces récits dans la mémoire de cette personne avec qui on a été en confiance et à qui on s'est ouvert d'un certain nombre de choses. Donc, la personne travaille autour du sens en fin de vie. Personne d'entre nous n'a envie de savoir que notre vie a été insensée. Et ce besoin de sens peut l'amener par moments à une petite distorsion de la réalité. Ça n'a pas d'importance. C'est important qu'elle s'apaise et qu'elle fasse cette reconstruction de son histoire sous le regard bienveillant de quelqu'un. Bienveillant et intéressé et curieux. Et c'est pour ça que le bénévole est si précieux, parce que dans la famille, ils vont déjà nous dire « non, c'était pas comme ça, c'était autrement ». Et puis la famille, elle a déjà entendu ces histoires-là, donc elle ne voit pas pourquoi c'est si important que ça, d'en parler encore et encore. Quoi. Parce que dans ces récits, la personne en fin de vie, elle fait sa pesée de vie sur cette terre. C'était quoi ma vie ? Où est-ce que je me suis inscrit ? Qu'est-ce qui restera de moi ? Et où est-ce que j'ai accompli ce besoin de sens dont on est tous porteurs ?
Le premier regret des personnes en fin de vie est d'avoir trop cherché à correspondre à l'image que les gens attendaient d'eux.
C'est vraiment... Ah oui, c'est poignant. C'est poignant. C'est tout un travail hein, pour aller se réapproprier en fait, un certain nombre de choses qu'on a mis dans la poubelle, alors qu'on y tenait, mais qui dérangeaient. Donc on s'est un peu rabioté là, et pour rester comme on veut, quoi. Comme les autres voulaient. Et c'est là où le bénévole a un super salaire. Parce que quand l'autre il dit j'ai été trop conforme, ou j'ai été trop ci, trop ça, mais lui il se pose la question. Et moi j'en suis où par rapport à ça? Elle est... De quelle nature est ma liberté? Qu'est-ce que je suis... Quand est-ce que je dis oui alors que je voudrais dire non, ou l'inverse, quoi. C'est pour ça que quand les gens peuvent se poser la question avant, c'est bien. Mais quand on fait un bilan de vie, ça fait partie des choses douloureuses, quoi. J'ai trop sacrifié à l'image. J'ai trop sacrifié au paraître, j'ai trop sacrifié à la conformité, quoi. Et j'ai étouffé plein de choses.
Et la vôtre, vous l'imaginez comment? Vous l'aimeriez comment?
Là, c'est très personnel. Là, c'est très personnel. C'est maintenant vous qui êtes mon écoutant, alors. J'ai accompagné ma mère à mourir il y a un an et demi de ça à peu près, chez elle, dans sa maison. Elle le désirait tel quel. On parlait très souvent de la mort parce qu'elle avait quand même 100 ans. Et un jour, elle me dit, Pierre, cette nuit, donc j'allais la voir évidemment très fréquemment, elle habitait dans l'immeuble à côté, dans la même montée à côté de la mienne. Et elle me dit un jour, Pierre, cette nuit j'ai rêvé, mon père m'appelait et me disait, saute Suzanne, saute. Alors tu en penses quoi? Alors je lui ai dit, eh ben, écoute maman, c'est clair, hein, toi tu en penses quoi? Je crois qu'on est tous les deux sur le même point. Oui, tout à fait, tout à fait. 2 jours après, elle fait un AVC. 3 jours après, elle était morte chez elle, dans son lit, avec petits-enfants, enfants. Voilà, ça c'est le pied pour une mort. De plus en plus souvent, il m'arrive de m'imaginer malade à l'hôpital et qu'on toque à ma porte, qu'elle s'ouvre, que se présente un inconnu, un étranger comme je le suis pour ceux que je visite. Je suppose que, comme chacun de ceux que j'écoute, je lui parlerai de ce qui me tient le plus à cœur. Je parlerai, quel soulagement! Je parlerai à cœur ouvert de moi, sans que le temps me soit compté, sans que rien ne m'arrête. Je parlerai de moi. Je n'écouterai que le son de ma voix. Elle me reviendrait tout entière. Enfin, une fois au moins, j'aurais pu faire le tour de mon histoire.
Combien de gens vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais à Jalmav? Qu'est-ce que tu fais? C'est terrible. Oh, comment tu peux faire ça? Mais c'est sinistre. C'est sinistre. Alors, y a une confusion, quoi. À partir du moment où on met la mort comme un tabou, et qu'on ne veut pas aller voir à quel point elle est précieuse pour nous aider à vivre. La vie est dans la mort et la mort est dans la vie. Et que c'est tricoté ensemble et que si on ne fait pas... si on ne fait pas de la place à ça, eh ben, on ne vit pas très bien et on mourra sans doute pas très bien non plus. Quoi. Donc les bénévoles, ben, ils font partie de cette petite frange d'une société qui accepte de regarder en face les réalités d'une condition humaine.
Notre société a du mal, d'une manière générale, avec la mort.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est effroyable, c'est effroyable. Et je trouve ça effroyable, surtout moi, pour les enfants et les adolescents. Parce qu'un enfant, un adolescent, je veux dire, qui est beaucoup dans la toute-puissance, c'est la caractéristique, il sent tellement ses possibilités, il va être plus fort que son père en informatique ou en sport, etc. Il a besoin de ce contrepoids de la fragilité, de la vulnérabilité d'un vieillard, par exemple. Et si on met tous les vieux dans des ghettos où on ne va pas les voir... L'adolescent ne peut pas intégrer le chemin qui est le sien et qu'il va devoir parcourir,
qu'il le veuille ou non. Il a une période de toute puissance, certes, mais la vulnérabilité, ça viendra aussi en son temps. Et donc, ça fait des gens qui n'ont pas pris cette dimension-là, qui n'ont pas intégré totalement cette dimension. Et ça, c'est, pour moi, c'est un vrai gros souci de notre société, quoi. Une espèce de superpuissance du moi qui, voilà, qui reste là-dedans et puis qui n'intègre pas la suite.
Tu veux m'en dire ? Oui, je veux bien. Là.
Merci.
Ah!
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 Même! Est-ce que tu veux dire?
Été fini. Nouvel automne. Rentrée du groupe de parole. Aujourd'hui, il pleut et la mousse sur les marches se fait visqueuse. Chaque fois que je monte les quelques marches du petit escalier bordé de rosiers grimpants, une attente particulière s'empare de moi. Impatience et crainte. Des yeux, je fais le tour des présents. Semaine après semaine, mois après mois, des années pour certains qu'ils sont là. Y a-t-il une date de péremption pour les bénévoles aussi ? Pour sa rentrée, le groupe accueille deux nouveaux participants, deux femmes. Antoine est parti. Comme à chaque rentrée, je m'interroge. À quels élans et à quelles déconvenues, à quelles découvertes devrons-nous faire face ensemble une année encore ?
Il est fort. Tu veux mettre une goutte d'eau ?
À l'écoute, un regard. Avec Claire Pinet et Pierre Reboul. Merci au groupe de parole de l'association grenobloise Jal Malve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, ainsi qu'à l'équipe et aux patients de l'unité de soins palliatifs du CHU de Grenoble. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sina. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claire Levasseur. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffie Mariani.